9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS pour À Votre Santé. Bon matin à tous, bonjour Karima.
Bon matin Philippe, bonjour à nos auditeurs et auditrices en ces belles journées ensoleillées.
Il fait super beau.
Il fait beau, il fait chaud.
On est des tournesols, vous êtes un tournesol ce matin.
Bah vous aussi,
oui,
Philippe,
c'est vrai.
Vous aussi.
Oui. Moi je suis en rose et vous êtes en mauve.
Voilà. Oui, on est assortis.
Ouais, on va donner le tournis aux gens qui nous écoutent. Et à tous les caméléons qui passent dans le coin, on va leur donner le tournis.
Absolument. Bah écoutez, on célèbre l'arrivée de l'été. Donc,
ouais, c'est trop bien
ça
en tout cas.
Ça
fait du bien aux os. Alors je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial, que votre sœur Khadija est là aujourd'hui, mais qu'elle a, pour une fois, elle a décidé d'être calme.
Oui.
Donc c'est pas qu'on a décidé de la boycotter, c'est qu'elle est, je sais pas, elle est calme. Elle entame un moment zen.
Oui, parce qu'en fait, elle renoue avec Paris, ça fait longtemps qu'elle est parvenue sur Paris et qu'elle refait les grands boulevards et tout ça. Donc là, elle dit, oh là là, ça me rappelle trop tout. Donc je pense qu'elle doit être dans une phase nostalgique. Et...
Elle se réapproprie son histoire.
Voilà, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus calme et plus zen.
J'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin de l'émission. On n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, elle prenne le tabouret à côté de vous pour venir dire ce qu'elle a envie de dire.
Absolument.
On va parler de résilience, Karima, ce matin, mais c'est quoi ce concept de résilience dont on entend parler assez souvent?
Oui.
Mais je suis persuadé que la majorité de ceux qui nous écoutent ce matin ne savent pas précisément définir et dire ce que c'est que la résilience.
Oui, absolument. Donc c'est un terme qui nous vient du domaine des sciences, de la physique, et c'est en fait c'est le retour à l'état initial, c'est ça que ça veut dire. La résilience, c'est un retour à l'état initial avant d'être déformé, ou à un moment donné, quand l'élastique, il s'étire, et à un moment donné, quand il va au bout de son étirement, il reprend sa forme initiale. La résilience, c'est quoi? C'est cette capacité qu'a l'être humain de pouvoir rebondir, d'aller puiser dans ses atouts, dans ses aptitudes, dans ses attitudes, dans ses ressources personnelles, pour pouvoir surmonter des difficultés, pour pouvoir tirer des enseignements, et ensuite grandir et évoluer par rapport à ce qu'il vit, par rapport aux différentes situations. Donc nous avons tous, et ça beaucoup de gens pensent le contraire, que nous avons tous en fait une résilience naturelle.
Innée.
Elle est innée.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se confronter aux événements pour se faire une forme d'apprentissage.
D'entraînement.
D'entraînement.
Alors, elle est déjà là. Dans nos conditions initiales, quand on arrive sur Terre, dans notre incarnation, on arrive déjà avec ça. Ensuite, selon nos expériences, on va soit la développer et avoir cette posture de résilience avec cette possibilité, cette capacité de se dire que je peux, j'ai les ressources. Rien ne m'arrive dans la vie sans qu'il y ait les ressources autour de moi. Et je vais vous partager quelque chose. La semaine dernière, j'ai animé un atelier. Pourquoi vous rigolez, Philippe? Il me regarde. Vous me perturbez.
On est à la radio.
Oui.
Ne dites pas que je suis en train.
Oui.
La semaine dernière, vous avez animé.
La émission est filmée. Moi, je vous vois. Non, les gens ne vous voient pas.
Donc,
ne
me regardez pas. Regardez votre sœur. Donc, vous avez animé.
J'ai animé un atelier sur les aptitudes et les capacités à pouvoir animer un atelier avec un fil conducteur. En fait, les qualités des grands orateurs, les qualités de pédagogique, en fait, quand on veut organiser quelque chose. Et les stagiaires me posaient la question, me disaient, oui, mais si je perds le fil ou si je perds quoi que ce soit, comment je vais faire pour me rattraper? Comment je fais pour me rattraper aux branches? Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les branches. C'est que tu descends, peut-être si tu tombes. Il y a toujours, en fait, dans ton environnement et à l'intérieur de toi, il y a toujours les ressources. Quand il y a un problème, les ressources viennent avec le problème. C'est comme la maladie. Quand la maladie se déclare, il y a toujours le remède avec. Ça, c'est une loi universelle. Seulement, on ne le connaît pas. Seulement, on n'en a pas conscience. Par exemple, quand on fait dans l'éducation nationale, ça, c'est une discussion que j'ai eue avec mon gendre, quand quelqu'un passe un concours, une évaluation, on va lui poser des questions, on va lui dire des choses improbables, ou on va attendre de lui ou d'elle des choses improbables ou même difficiles pour le mettre sous pression, pour l'essorer, pour voir qu'est-ce qu'il va en sortir. Mais dans la vie réelle de tous les jours, quand on a une difficulté, on n'est jamais démuni. C'est une vision de notre esprit que je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver, comment ça va se passer? Mais il y a le soutien extérieur, l'aide sociale, le soutien. Quand je dis l'aide sociale, c'est pas l'aide sociale étatique, hein. Je parle de l'aide sociale, c'est-à-dire mon tissu social, les gens qui sont autour de moi, mon environnement, mes amis, la famille, comment est-ce qu'eux, ils peuvent me soutenir? Et les ressources sont dans mon environnement. Soit elles sont à l'extérieur de moi, soit elles sont à l'intérieur de moi. Et en tant que parents, nous avons le devoir, mais vraiment le devoir, quand on accompagne nos enfants, de leur dire qu'il a tout en lui pour pouvoir s'en sortir quand il est face à une difficulté, face à l'adversité. Il y a différentes manières de réagir. Soit je me fige et je me bloque et je n'y arrive pas. Et je reste dans Radio Moi à me raconter des histoires et dans mon brouillard cérébral. Soit je peux transformer ce qui m'arrive, c'est-à-dire faire alliance avec l'événement, l'épreuve que je suis en train de vivre, l'adversité, la situation exigeante qui est là et qui me serre, qui m'oppresse, qui me met mal. Eh bien, je peux la transformer. Mais ça, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est une vision aussi de l'esprit. Donc, les parents, si on veut aider nos enfants, leur donner les moyens de pouvoir se sortir de là où ils sont, de se dépatouiller tout seul, leur apprendre l'autonomie, il faut leur apprendre que déjà, ils ont les ressources en eux.
Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, on n'a pas encore cité le père de la résilience, mais quand même, voilà.
En tout cas, celui qui l'a conceptualisé.
Celui qui l'a conceptualisé et popularisé.
Absolument. Et vulgarisé aussi, parce que c'est le docteur Boris Cyrulnik.
Voilà, c'est qui est le premier. Et c'est vrai que nous, il y a 30 ans, on ne parlait pas de résilience.
Hein.
C'est un mot qu'on n'utilisait pas. Puis maintenant, on dit oui, c'est la résilience. Il faut être résilient.
Exact. Et surtout, ça a été, Philippe, si vous me permettez, ça a été aussi plus développé et devenu et rendu accessible pendant toute la période du Covid. Pendant toute la période de la crise sanitaire que nous avons vécue, où il y avait beaucoup, quand vous alliez sur les réseaux, ou même en allumant la télé, ou en regardant, développer votre résilience. C'est quoi la résilience face au virus, face à cette crise? Combien de temps elle va durer? C'est ce qui nous a permis de tenir, en allant puiser dans nos ressources intérieures. Parce que vous rappelez, tout le monde pensait qu'on allait tous mourir. On pouvait plus se voir, ni se parler. Enfin, se parler, oui, mais en tout cas, être ensemble, de manière physique. Et donc, de dire, je vais aller puiser en moi. Surtout quand on a l'habitude d'être avec du monde autour de soi, d'être avec sa famille. Et là, du jour au lendemain, on est coupé. Je n'ai qu'un seul recours, c'est de rentrer à l'intérieur de moi et d'aller chercher cette force et cette énergie qui va m'aider à tenir et à supporter l'insupportable.
On va donc expliquer aux parents qui nous écoutent ce matin comment vous pouvez activer la résilience chez nos enfants pour en faire des êtres super résilients, parce que ça s'apprend. Est-ce que vous diriez, Karima, que la résilience c'est une compétence, un petit peu comme les soft skills, comme on dit aujourd'hui?
Alors c'est un muscle en fait. Je vais dire ça comme ça. C'est un muscle en fait qui a besoin de discipline, qui a besoin de pratique et qui a besoin d'entraînement, parce qu'il est là. Dès qu'on arrive au monde, cette capacité, elle est déjà innée, et ensuite, bien sûr, il faut la développer. Il faut je vais dire un mot qui va être un peu dur, mais il faut la confronter. Dans le sens où, tiens, je vais faire un exercice de comment je vais développer cette résilience. Les anciens parlaient, n'utilisaient pas le mot résilience, mais parlaient de patience, ils parlaient d'endurance, ils parlaient de persévérance. Vous voyez? Donc, c'est un peu le même principe. Alors, être résilient, ça ne veut pas dire que je n'ai plus je suis dans une démarche où je, résignation, voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça veut pas dire que je suis résignée. Ça veut dire que comme j'ai pas de pouvoir et que j'ai pas d'autre choix, j'accepte.
On est passif
exactement. Là, la résilience c'est plutôt quelque chose c'est un mouvement à l'intérieur de soi qui nous aide. En fait, on prend soin de nous et à se dire, ok, même si pour le moment dans cette situation je ne vois que du noir, je suis dans le tunnel, mais au bout du tunnel il y a la lumière et je vais avancer vers cette lumière. Si la résilience, c'est dire un pas après l'autre et de pouvoir s'encourager soi-même et de se dire, ok, ce que je vis, je n'ai pas, lâcher prise aussi, je n'ai pas de pouvoir dessus, mais consciemment je lâche prise en disant, ok, puisque je n'ai pas de pouvoir dessus, ça ne sert à rien de me rendre malade, de me tordre dans tous les sens, l'usine à gaz dans la tête. Je dis non, j'avance un pas après l'autre vers la lumière parce que je suis persuadée qu'il y a la lumière au bout et qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Les difficultés vont cesser, les difficultés vont se transformer. Et c'est cet état d'esprit de résilience qui nous aide. Moi, je vois beaucoup d'enfants, Philippe, au moment où je faisais, où mes enfants étaient au collège, et j'ai participé beaucoup, et ça me tenait à cœur, au conseil de discipline. Et en écoutant pour un enfant qui a été violent avec le professeur, qui a mal parlé, qui a déclenché l'arme à incendie, qui a fait quoi que ce soit, d'aller chercher l'origine, en fait, la source de ce comportement. Et quand on le trouve, on voit que, en fait, c'est des enfants très résilients parce que ce qu'ils vivent à la maison, des drames, des situations terribles, et de dire, mais quand même, il vient tous les matins à l'école, il fait cet effort, même s'il va avoir des comportements inappropriés en classe, mais il vient quand même. Donc, c'est vraiment une résilience naturelle qu'il faut, et moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment plus la développer avec nos enfants et être dans un système qui encourage ça, mais pas qui vient punir ou qui est dans la répression, qui est dans cette espèce de transformation. C'est-à-dire, c'est respecter, en fait, ce processus de maturation pour aider l'enfant à devenir l'adulte responsable et épanoui et autonome.
On parle de résilience ce matin, et puis surtout comment activer la résilience chez vos enfants jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors on parle de résilience et comment développer la résilience chez vos enfants ce matin avec Karima Chadiba. Oui, et évidemment, Karima, je vous l'avais dit, ni une ni deux, elle a profité de la page de publicité pour s'emparer d'un tabouret. Khadija est là. Bonjour Khadija.
Bonjour Philippe.
Bon, et vous êtes thérapeute du couple. Et vous
exercez thérapeute familiale
à Marrakech. Voilà, exactement. On parle de la résilience et je sais que vous avez énormément de choses à dire sur la résilience. Alors, la résilience, ça se travaille. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont des éponges et que les parents sont des modèles.
Exactement. Donc, ça veut dire que les parents doivent aussi incarner cette attitude, cette posture. Et bien sûr, croire aussi en leurs enfants. Croire en eux, avoir confiance en eux, vraiment être dans cet optimisme en tant que parent, donc confiance en les capacités de mon enfant, qu'il va y arriver. Et on le voit souvent, on donne cet exemple, le petit enfant quand il est là avec son jouet, vous savez, avec le jouet, il est en train d'essayer d'empiler ou d'emboîter des choses les unes avec les autres. Les parents, s'ils viennent tout de suite l'aider, où ils viennent tout de suite lui trouver la solution, ils empêchent en fait cette capacité à se développer exactement et avoir les ressources.
Il ne l'aide pas parce que... Vas-y. J'ai mal mis mon micro.
Vas-y.
D'accord. Parce que, voilà, il faut le laisser. En fait, là, quand il joue avec ses jeux et qu'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui se met en place? C'est sa créativité et son système D qui va se mettre en place. Je dois me débrouiller, je dois y arriver. Donc, il va chercher par tous les moyens. Je vous donne un petit exemple. Ma dernière fille, qui a aujourd'hui 22 ans, quand elle avait entre 3 et 4 ans, un jour, elle voulait éteindre, je lui ai dit, éteins la lumière. Elle n'y est pas arrivée, elle n'y arrivait pas. Elle me dit, maman, maman, avec ces mots, j'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Je lui dis, essaye. Elle a pris un pouf, elle s'est mise dessus, elle n'y est quand même pas arrivée. Donc, elle était vraiment petite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est éloignée, elle a pris une paire de chaussures et elle a lancé sur l'interrupteur.
J'adore.
J'étais vraiment... En admiration.
Oui, et puis ça l'a pas étonnée, parce que comme déjà sa mère le faisait, elle avait vu sa mère le faire, donc elle a dit, ben voilà, si maman le fait...
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne une chaussure et qu'elle... Ouais. Et elle a réussi, elle a bien visé. Ouais.
De toute façon, parfois, il faut échouer pour y arriver, et ça fait partie du processus d'acquisition des connaissances. Puisqu'on parle de la résilience, il n'y a pas besoin de vivre des traumatismes pour justement acquérir les capacités pour s'en sortir et les traverser.
Exactement. Pourquoi est-ce qu'on parle de résilience? À quel moment on le découvre? C'est quand on voit que la personne a traversé le trauma, a traversé la blessure. C'est à partir de là où ça a apparu, parce qu'on a voulu modéliser, dire comment les gens s'en sortent, comment est-ce qu'ils font, ce qui y arrive. Parce que... Il y a une espèce d'inégalité où tu as entre deux personnes qui vivent exactement la même chose, le même événement, et tu as une personne qui va le vivre et qui va dire ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On va en tirer les enseignements et va en faire quelque chose de super. Cet événement m'a sauvé la vie parce que j'ai compris ça, et ça m'a permis de développer ceci et cela. Le même événement, une autre personne va dire, oh là là, c'est pas possible. Depuis ce jour-là, je suis au fond du trou. Je sors plus de mon lit. Je vis la dépression totale. Je veux plus voir personne. Je veux plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas transformé cet événement. Un trauma, c'est quoi, Philippe? Un trauma, c'est une expérience de vie qui n'a pas été transformée en apprentissage. C'est-à-dire que le cerveau, mes émotions, c'est comme si on mettait les émotions sous le tapis, on ne les développe pas. Quelqu'un de résilient a cette capacité, cette aptitude naturelle à aller dire « Ok, là ça ne va pas, je me sens comme ci, comme cela. » Et va aller réanalyser en fait la situation.
Des fois, ça va se faire naturellement et spontanément. Une personne va vivre une situation et au lieu de s'asseoir et se dire « Bon, qu'est-ce que je vais en tirer comme enseignement ?» Non, elle va dire « C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que je peux y faire ? Rien du tout. Eh bien, je vais de l'avant. » Ça se fait inconsciemment. Et là, je pense que la majorité, on fait comme ça.
Parce qu'il y a aussi le facteur qui est important, enfin en tout cas dans les études qui ont été faites, qu'est-ce qui développe la résilience ? C'est aussi cet amour inconditionnel, ce regard qu'ont les parents sur l'enfant. Si le regard, par exemple, moi je le vois beaucoup, et ça a été un grand enseignement pour moi, les parents qui ont des enfants porteurs d'handicap. Et vont regarder l'enfant avec cette brillance, avec ce... Oui, il est porteur d'handicap. Oui, il n'a pas les mêmes chances que les autres. Oui, ça va être difficile. Oui, ça va être le parcours du combattant. Mais en même temps, il développe quelque chose de dire « Mais je crois en cet enfant, je crois en lui. » Et même s'il n'a pas les mêmes aptitudes ou les mêmes chances que les autres, mais lui va en développer. Et c'est cette manière de le regarder qui va faire qu'il va développer cette résilience naturelle.
Et on a des exemples de ça. Moi, il y a une jeune fille qui est, je crois, dans les pays asiatiques et qui cuisine, qui n'a pas de bras, qui cuisine avec ses pieds. Il y a beaucoup de gens qui la suivent et elle fait de bonnes recettes. Enfin, en tout cas, c'est les retours des gens sont bien. Donc voilà, elle s'est pas arrêtée là, sa vie ne s'est pas arrêtée là, elle a développé d'autres choses et elle s'est mariée et puis elle a des enfants et c'est ça.
Et souvent quand on a le regard extérieur sur ces personnes-là, on dit mais comment ils font parce que moi je n'y arriverai pas.
Exactement. Voilà,
c'est ça. Ben, comme les grands athlètes qui sont unijambistes ou les athlètes qui sont handicapés et qui jouent au basket et qui jouent au vous savez ils ont des associations pour handicapés où les handicapés jouent
Oui, en e-sport, tout ce qui est...
Ils auraient pu s'arrêter. Ben là, ils ont développé une résilience. Bon, c'est vrai qu'on a développé aussi à côté une association et des jeux spécifiquement pour eux. Mais bon, ça s'est fait à partir... C'est une personne qui, un jour, qui est handicapée, qui s'est dit, moi, je peux pas rester. Ma vie ne peut pas s'arrêter là.
Absolument.
Et c'est une personne comme ça, handicapée, qui a eu l'idée de créer ce genre d'association et ce genre de compétition pour les gens.
Alors, là, je suis d'accord avec vous pour les exemples que vous évoquez, mais pour un exemple ou deux ou trois ou quatre, combien d'exemples de gens qui ne le sont pas ? Est-ce que finalement, tout le monde est résilient ou la majorité des gens ne le sont pas ?
En fait, comme on l'a dit au départ, c'est une aptitude que nous avons tous, elle est innée. Parce que l'être humain, il est flexible. L'être humain, il a une capacité d'adaptation extraordinaire. On parlait tout à l'heure de la résilience, c'est quoi ? C'est reprendre forme. Je reprends ma forme initiale. C'est ça. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on l'a tous. Maintenant, est-ce qu'on ne l'a pas enterré quelque part ? C'est comme les gens qui se disent être déconnectés de leur source, déconnectés de leur cœur, déconnectés, qui sont qu'une tête qui marche sur deux pieds, parce qu'ils ne peuvent plus écouter leurs émotions, ils se coupent de leurs émotions parce que les émotions ça fait souffrir. Beaucoup de personnes pensent ça. D'accord ? À juste titre, parce que ça les fait souffrir, c'est que c'est une réalité. Mais parce qu'on ne leur a pas montré une autre manière de faire. On ne leur a pas montré que la difficulté dans laquelle tu es, dans cette difficulté, moi je crois très très fort parce que je suis dans le courant de la psychologie positive et parce que en tant qu'aussi moi je suis croyante hein, et je ne pense pas, et vraiment c'est une conviction avec ma tête et avec mon cœur que mon créateur ne va pas me mettre dans une situation s'il ne me donne pas les moyens de m'en sortir. C'est une philosophie de vie. Alors après, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme vous voulez, quelle que soit votre croyance. Mais ça, c'est une loi universelle. On la voit dans la nature.
Tu ne peux pas porter sur tes épaules quelque chose dont tu n'as pas la force, les compétences et la capacité à supporter.
Je vais vous dire.
Il suffit simplement de chercher en soi et d'aller chercher cette force. Moi, je pense qu'on est tous résilients au départ. Simplement, à un moment donné, on laisse tomber notre résilience et on se laisse happer par la problématique qu'on vit à ce moment-là et on se laisse noyer dedans parce qu'il peut y avoir diverses raisons. Hein.
Je vous donne un exemple. En cabinet, en thérapie, quand on reçoit une personne qui a traversé, mais vraiment, le désert, hein, sans eau, sans rien du tout, sans charbon, et qui arrive quand elle se trouve dans notre cabinet, puis elle nous raconte son histoire et nous dit, donc on lui demande ce qu'elle attend de nous et qu'est-ce qu'elle veut réellement, et la demande explicite c'est je veux changer ça ou changer ça, mais la demande implicite derrière c'est aide-moi à grandir, je sais qu'en moi, alors ça c'est vraiment implicite, en moi je sais que j'ai ce qu'il faut, mais je n'y accède pas, je n'y ai pas accès, j'ai un trousseau de clés et je sais pas quelle clé mettre dans la serrure. Alors moi, je donne souvent la métaphore, je dis, moi, je suis votre lampe torche. Parce que chez vous, il y a, vous savez, quand vous allez dans, si vous avez une cave comme moi, ou un grenier, ou une breca comme ça, où il y a plein de trucs, et souvent, il n'y a pas de lumière, et puis quand tu cherches un truc, tu sais que tu as un truc là-bas, mais tu sais plus où tu l'as mis. Eh bien, d'avoir cette lampe torche qui va nous dire, qui va éclairer l'endroit, et nous dire, et nous dire où regarder. Vous me connaissez, Philippe, et vous savez mon goût pour les contes soufis. Et il y a le fameux Joha. Alors, selon les pays, on l'appelle Joha. Au Maroc et en Algérie, on l'appelle Joha. Et dans d'autres pays, on l'appelle Nasreddin. Il a perdu son trousseau de clés. Et il est en train de chercher ses clés à un endroit sous le lampadaire. Et il y a un policier, je ne sais plus si c'est un policier ou un ami qui vient le rejoindre. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je cherche mes clés, je les ai perdues. Il lui dit, mais tu les as perdus où? Il lui dit, là-bas. Il lui montre, là-bas, quand je dis, donc je montre, on est filmé, mais là-bas, c'est-à-dire, pas là où il cherche, lui. Il lui dit, mais si tu les as perdus là-bas, pourquoi tu cherches ici? Il dit, bah, parce qu'ici, il y a de la lumière. Donc, vous voyez? C'est exactement ça.
Joie est un peu benêt, hein, faut quand même expliquer, hein. Oui. Ouais, c'est le principe.
Mais en même temps, il est tellement, la sagesse, faut la prendre. Il est nia, on le dit. Et la sagesse, il faut la prendre là où elle se trouve. Et dans la manière dont il en parle, ben oui, c'est normal. Il va chercher là où il y a de la lumière, là où il voit, là où il peut observer. Mais là où il n'y a pas de lumière. Donc nous sommes des lampes torches. Nous disons aux gens, ben on va orienter la lampe, on va regarder peut-être. Tu sais que tu as tout ça chez toi. Ou peut-être que tu ne le sais pas, qu'on ne te l'a pas fait découvrir. C'est pour ça qu'on le dit aux parents, développez, favorisez la résilience de vos enfants. Ne soyez pas tout de suite avec votre cape de sauveur où vous voulez sauver, protéger votre enfant. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le laisser se mettre en danger. Mais simplement, regardez-le, observez-le, montrez-le. Si vous le tenez par l'élastique ou si vous le tenez, gardez le lien. Mais donner un peu du lest, je ne sais pas si on dit comme ça, voilà.
Lâcher du lest.
Voilà, lâcher, un peu merci. De l'est, ouais. Voilà, lâcher et laissez-le faire ses expériences. C'est ça qui est important.
Et puis, ne faites pas à sa place.
Oui.
C'est surtout ça. Surtout ça.
Les parents pensent bien faire. C'est-à-dire que finalement, ils terminent à la place de l'enfant. Ça les agace.
Mais on ne développe pas l'autonomie parce qu'on est pressé. La résilience veut du temps. La résilience demande du temps. C'est comme si, quand vous voulez préparer un bon tagine, et vous dites, ah ben, je vais le mettre dans le thermomix. Excuse-moi, un thermomix, c'est pas tagine. Un tagine, ça prend du temps, au Brest. Toi qui viens de Marrakech, tangia, on ne la fait pas au thermomix, tangia. Non. Donc, on va choisir ces ustensiles, on va dire ça comme ça.
Je crois que c'est la punchline de la journée. Le thermomix, c'est pas tagine.
Ben oui, Philippe. Attendez, un bon tagine. Les légumes ont bien lâché tout leur saveur, les épices.
Tagine en terre.
À la braise.
Vous m'expliquerez toutes les deux comment on est passé de la résilience au tagine. Mais je trouve ça intéressant.
Non, mais pour reprendre un peu, pour revenir, excuse-moi, cher Philippe, si je t'interromps. Mais par exemple, un enfant, lorsqu'on ne le laisse pas faire les choses par lui-même et qu'on ne le laisse pas se débrouiller, ben, au bout d'un moment, il s'énerve. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un adolescent qui s'énerve à la moindre des choses.
Des situations.
Il s'énerve parce qu'il veut faire par lui-même.
Voilà, c'est qu'on ne le laisse pas, c'est ça. Et puis du coup, qu'il se transforme en impatience
après. Non, ou qu'il peut s'énerver parce que justement, il n'arrive pas à faire il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Donc, il s'énerve parce qu'il a pris l'habitude que papa et maman viennent derrière pour le finir à sa place. Oui,
ça aussi. Bon, très cher Khadija, si vous le permettez, nous allons marquer une page de publicité. On parle de la résilience, comment justement activer cette résilience innée chez vos enfants. Et tout à l'heure, Karima, vous nous donnerez justement des exercices à pratiquer à la maison.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors dans le métier, on les appelle les sœurs Chadi. Elles sont là avec nous toutes les deux, Karima et sa sœur Khadija, qui est thérapeute du couple et de la famille, qui est là quelques jours en France et que ça fait plaisir d'avoir avec nous parce qu'on pouvait pas faire autrement et parce qu'on parle de la résilience ce matin. Karima,
alors,
donc des exercices à la maison à mettre en pratique justement pour réveiller, optimiser cette résilience chez les enfants.
Alors la première des choses, c'est la relation. Comment est-elle cette relation? Cette alliance, faire alliance avec notre enfant, comment est-ce que je le soutiens? Quelle est la relation avec lui? La communication, donc de comment je vais dire, on évalue, en fait on fait un peu de diagnostic de cette relation, ça c'est la première étape. D'accord? C'est comment est le, est-ce qu'il est un lien soutenant? Est-ce que c'est un lien plutôt toxique et délétère?
Est-ce que je suis à l'écoute?
Absolument.
Est-ce que j'entends ce qu'il dit?
Voilà. Donc, et donc de l'accompagner vraiment, de ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la communication. Comme l'a dit Khadija, l'écoute. Comment est-ce qu'on l'écoute? Alors, beaucoup de parents pensent que écouter, c'est parler. On n'a qu'une langue et deux oreilles. Donc, on doit écouter avec nos deux oreilles et écouter avec notre cœur. Donc, l'écoute, elle est importante. Pourquoi? Pour savoir ce qui se passe chez l'enfant. Donc, on va pratiquer de l'écoute active. Et notamment, quand ils viennent, ils passent la journée à l'école, il y a beaucoup d'événements là, dans la cour de récréation, que ce soit au collège ou au lycée ou même dans les petites classes, en élémentaire. Donc, d'écouter de qu'est-ce qui se passe. Et comment est-ce qu'il vit les choses? Parce que quand on fait de l'écoute active, on n'écoute pas uniquement les mots. On
alors, écoute qu'est-ce aussi... que ça veut dire l'écoute active, hein? Parce que c'est un terme technique, mais que tout le monde ne comprend pas forcément.
Alors, l'écoute active, en opposition, cherchez le mot, en opposition à l'écoute passive, l'écoute active, c'est-à-dire que j'ai une posture, je regarde, il y a le lien, le contact avec les yeux, la reformulation, je montre à mon interlocuteur que je l'écoute. Vous voyez, parce que la communication, elle n'est pas linéaire, c'est une boucle interactionnelle. En même temps que moi, je parle, je suis en train de parler avec Philippe, à parler avec nos auditeurs, avec Khadija, ben Philippe, il fait des signes de la tête, il fait des accusés-réceptions, on appelle ça comme ça, qui me montre que, oui, il est en train de suivre et il écoute ce que je dis. C'est ça, l'écoute active. C'est montrer à son interlocuteur, montrer à son enfant qu'il a toute notre attention. C'est pas, je suis en train de lui parler... Ou lui est en train de me parler, pardon, et moi je suis en train de m'occuper de mes affaires dans ma cuisine ou sur mon ordinateur.
Oui, et ça peut être des fois aussi reformuler ce qu'on a compris pour bien montrer à l'autre, est-ce que c'est bien ça que tu me dis? Donc je reformule.
Absolument.
Quand mon enfant me parle et me raconte le drame qu'il a vécu avec son professeur ou avec ses camarades, donc je reprends, je lui dis donc, si j'ai bien compris, tu m'as dit qu'il s'est passé ça et ça et ça, et que toi tu as fait ceci, cela. Donc est-ce que j'ai bien compris? Là, soit il va dire oui, soit il va dire non. Donc là, je lui montre que vraiment, il a mon attention complète.
Mon attention et mon intérêt, et je suis intéressée aussi par ses opinions. Toi, tu en penses quoi? Et c'est là, parce qu'on va voir un des points qui développe aussi la résilience, c'est l'esprit critique. Est-ce que nous accompagnons nos enfants à développer leur capacité d'analyse d'une situation?
Exact.
Ou est-ce que non, on leur donne, c'est du tout est mâché, non, ça, tu dois penser ça comme ça.
On en fait des béni oui-oui
exactement.
Et des minimi, comme on dit.
Exactement. Donc, lui demander son avis, toi, tu en penses quoi? C'est quoi ton opinion au sujet de cette situation? Surtout s'il a été témoin, par exemple, par exemple, là, on parlait beaucoup de harcèlement ces derniers temps, et de dire, toi, tu en penses quoi? Il a bien une opinion là-dessus. Il a bien une idée là-dessus. Donc, lui, installer l'espace pour qu'il puisse parler de ça. D'accord? Donc, on a parlé de la relation parent-enfant. Comment est-elle? Faire le diagnostic de cette dyade. Comment ça se passe entre nous? D'accord? La deuxième, l'écoute, la communication, l'écoute active. Le troisième point, c'est la discipline. Donc, Philippe, on parle beaucoup, nous, de bienveillance.
Ah, enfin de la discipline. Vous allez faire plaisir à Madame Goldman.
Écoutez, Philippe, obligé, là. Je ne peux pas... on doit parler de discipline. Quand on parle de l'accompagnement de nos enfants, ben ça se fait dans un cadre, ça se fait avec des règles, ça se fait avec des attitudes qui vont favoriser le développement de notre enfant. Donc, de la discipline, d'accord ? Par exemple, il veut devenir champion du monde de natation. Ben, s'il ne va jamais à la piscine, s'il ne va pas nager, il n'y sera pas. Ou si, au premier chrono, quand le maître nageur va... comment on appelle, j'ai perdu mon mot, va chronométrer son temps, bah il va dire oui, bah oui, entraîne-toi. C'est l'entraînement, la discipline, la rigueur et la, le, cette persévérance. C'est ce qui va aider. Donc vraiment, installer ça. Il veut devenir, alors c'est valable pour toutes les matières, pour tout ce qu'il veut apprendre, de la discipline. Il ne va pas devenir maître Shaolin, il veut faire du taekwondo ou du kung-fu ou je ne sais pas quoi. Il ne peut pas devenir maître Shaolin s'il n'a pas des heures et des heures et des heures d'entraînement avec son corps et avec son esprit. Donc, l'entraînement, la discipline.
Oui, puis dans la discipline, il y a aussi, moi, je mets aussi là-dedans, lui apprendre à se comporter avec les autres. Voilà, tu parlais de harcèlement. Ben, le harcèlement, voilà, quand je demande à mon enfant, qu'est-ce que tu en penses ? Si toi, tu étais à la place de l'autre, comment tu crois que l'autre, qu'est-ce qu'il ressent à ton avis ? Comment il s'est senti quand tes camarades lui ont fait ça ? Donc ça le met, vous lui apprenez à se mettre à la place des autres, vous lui apprenez à réfléchir, à analyser, à prendre position, et voilà, donc tout ça, donc il y a une, c'est une éducation, c'est réellement une éducation. Donc, ok, c'est bien qu'il veuille être médecin, mais c'est bien aussi... parce que laisser un enfant comme ça, c'est, on fait des adultes anarchiques qui ne vont obéir qu'à leur
pulsion.
Qu'à leur pulsion. Tandis que quand on éduque, qu'il y a un cadre, qu'il y a une
le terme que tu as utilisé,
une discipline, on fait des adultes responsables.
Alors c'est marrant parce que je trouve que la discipline, c'est pas très éducation positive, hein, psychologie positive.
Ah, si, quand même, la discipline positive, Philippe. C'est la
alors
discipline.
C'est qu'est-ce que vous appelez la discipline positive ?
Mais la discipline positive, c'est un cadre de bienveillance, d'accord, bienveillance dans la relation, dans le regard, dans l'attention et fermeté dans le cadre que vous posez. C'est ça la discipline positive, d'accord ? C'est pas parce que souvent, quand on parle de discipline, tout le monde a peur, tout le monde tremble, dit oulala. Moi, je me rappelle en classe. Monsieur Albertine, tu te rappelles ? On était en internat, il disait, allez, un peu de discipline ici. Ouais. C'est-à-dire,
Moi, la discipline me faisait plus penser à ça.
Oui, parce que justement, c'est la représentation.
Aucune tête qui dépasse, tout le monde est au carré.
Parce que c'est la représentation, qu'on s'en fait. Mais en fait, on peut pas vivre. Nous vivons en société, les uns avec les autres. Nous avons besoin de discipline pour pouvoir se respecter les uns les autres.
Oui.
Et vivre en communion avec les uns et les autres.
C'est une rigueur, en fait, c'est un état d'être aussi que l'on va installer avec des habitudes, avec, parce que l'être humain, il est aussi bien capable du pire que du meilleur. Et si je veux développer la résilience de mes enfants, l'endurance, la persévérance, la patience, le courage, l'honnêteté, l'authenticité, la bravoure, je vais lui apprendre à, c'est une discipline, ça s'apprend, ça se fait dans un cadre. Pour développer, c'est être dans un cercle vertueux. Et comme il peut être aussi capable du pire, t'as pas d'horaire, tu vas à l'école quand tu veux. T'as pas d'horaire, tu manges quand tu veux. C'est la Oh, tu dors plus, gars. Tu dors plus. Non, tu dors à des heures. Pourquoi ? Parce que c'est fait de manière à respecter tes besoins. La discipline, elle doit être accompagnée de besoins, d'être à l'écoute des besoins de l'enfant. D'accord ? Donc, parce qu'on vit aussi en société, on lui apprend à être à l'écoute de lui-même, à l'écoute de ses besoins et à l'écoute dans l'empathie, à l'écoute aussi de l'autre, qui est l'altérité, celui qui est en face de toi.
Quand on pose un cadre à son enfant, on lui montre qu'on s'intéresse à lui, que sa vie nous intéresse. On a beaucoup d'adolescents qui souffrent et qui font un peu tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils disent « mes parents ne s'intéressent pas à moi ». Alors que les parents, ils disent, on lui fait plaisir, on le laisse faire ce qu'il veut. Donc, il a besoin d'avoir un cadre. Et ça, c'est...
Et c'est dans le cadre qu'il apprend l'autonomie.
Oui, exactement.
Parce que Maria Montessori disait, c'est une citation qui est tout le temps reprise, et qui dit, elle dit, l'enfant, s'il pouvait à ce moment-là, quand il apprend, quand il est sur les chemins de l'autonomie, c'est comme s'il dit, apprends-moi à faire seul. Mmh. Apprends-moi, c'est-à-dire, t'es avec moi à faire seul. Plus tard, à prendre mes décisions par rapport à un événement, développer cette résilience par rapport à une épreuve, et j'en tire les apprentissages, et je saurai ensuite, quand je suis face à des difficultés, de dire oui, face à cette adversité, il y a différentes manières d'agir. Comment je veux agir? Comment je veux m'en sortir? C'est ce que ça va apporter. Mais si on a affaire à des automates, avec des enfants où on leur dit, on n'écoute pas leurs opinions, on n'écoute pas leurs besoins, on n'écoute pas leurs émotions, on peut faire de l'intelligence artificielle, oui, mais ce ne sera pas des êtres humains.
D'autres exercices à pratiquer en famille?
Alors, la gestion du stress, Philippe. La gestion du stress, ça aussi, c'est un des facteurs le plus important. C'est aider l'enfant quand il est dans la difficulté de dire... Parce que souvent, quand l'être humain, il est dans une difficulté, il pense que c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire, ça va durer toute la vie, on ne va jamais s'en sortir. De dire, non, ça va s'arrêter à un moment donné. Ça va s'arrêter à un moment donné. Peut-être la manière dont tu le prends maintenant, peut-être que le prendre d'une autre manière. Donc, être dans cette vision plutôt optimiste et gestion du stress pour débloquer le bon stress, celui qui va mobiliser tes ressources pour t'aider à surmonter la difficulté. Mais, et pas celui qui te, qui te paralyse ou qui te fige.
Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Un enfant de 4 ans qui va en maternelle, il va mettre ses baskets. Il a des lacets pour fermer ses baskets. Sa maman lui a montré, mais il n'y arrive pas. Elle lui a montré une façon de faire les lacets, une seule. Il essaye de faire la boucle, il n'y arrive pas. Mais quand la maman vient et qu'elle lui dit, regarde, tu peux faire soit le petit nœud papillon, les deux boucles comme je te montre, soit tu peux prendre tes lacets et les entourer autour de ta cheville et le fermer. Je lui apprends deux façons de voir les choses. Donc, en même temps, je lui apprends à développer sa capacité à être patient et à développer sa capacité de créativité et à ne pas perdre patience, à être là. Bon, je ne suis pas arrivée de cette façon, mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir. Donc, je vais chercher. Donc, ici, ma résilience, elle se développe.
Après, il faut que l'enfant puisse marcher.
Parce
que votre truc d'enrouler autour de la cheville, j'étais en train d'imaginer, c'est pas des lacets qu'il a.
Non, il y a des enfants, bon, il va faire juste un tour et faire un nœud, mais l'essentiel c'est qu'il y arrive par lui-même.
C'est ça.
Et l'essentiel c'est qu'il y pense, qu'il le fasse de cette façon, qu'il le fasse d'une autre façon, ou qu'il prenne le lacet et qu'il le rentre dans la basket.
Et si ça vous énerve, c'est pas la peine de lui acheter des chaussures avec des scratchs, parce que vous aurez contourné le problème, mais vous y aurez pas résolu.
Exactement. C'est de lui donner les moyens de pouvoir s'en sortir et qu'il y a, face à un problème, il y a toujours plusieurs solutions, il n'y en a pas qu'une. Sortir de la rigidité psychologique et dire, il y a une autre manière de faire.
C'est un exemple tout bête, mais je vous assure que l'histoire des lacets, vous faites le nœud, vous l'entourez autour de la cheville, ou vous roulez le lacet puis vous le rentrez dans les baskets, il y a trois façons de mettre ses chaussures, trois façons de faire ses lacets.
Vous commenterez sous la vidéo, vous avez essayé la méthode autour des chevilles, puisque vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. L'émission a été enregistrée. Je rappelle que vous réécouterez l'émission en podcast également sur beurrefm.net. Absolument. Et sur toutes les plateformes de podcast qui diffusent aujourd'hui les programmes de Beurre FM. Merci à toutes les deux. Merci Khadija.
Merci Philippe. Merci à nos auditeurs.
Vous êtes
à
combien de temps en France?
Je pars bientôt dans 4-5 jours.
Revenez-nous vite.
Avec plaisir.
Et bien, Karima, on vous retrouve mercredi.
Avec plaisir.
Et vous tous, merci de nous avoir prêté vos oreilles. Et très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.